Gloire à Dieu. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien. Le Seigneur nous bénit, nous fait grâce, que son nom soit glorifié. Nous remercions Dieu pour ce culte d'adoration, pour les chants, le repas du Seigneur, et aussi pour la parole de Dieu, pour ce temps de prière et pour le fruit qu'il y a eu aussi de la parole de Dieu et aussi pour l'action de l'Esprit de Dieu qui se fait dans les corps. Je le disais ce matin, notre frère Monsieur Fourré est rentré chez lui jeudi après-midi. Et lorsque je lui téléphonais, il était sur la terrasse le vendredi pour un bain de soleil. Quand on sait comment il a frisé le départ pour la patrie céleste et comment Dieu est celui qui a mis sa main tout particulièrement sur lui, on rend grâce au Seigneur pour notre sœur Dina Pusneau, qui a été bénie par le Seigneur, puisqu'elle avait un problème de fer depuis 15 ans, l'anémie, et mardi soir, à la réunion de prière, le corps médical lui a dit qu'il ne restait plus rien, que Dieu soit béni. Et puis, nous avons entendu la maman ce matin de Matisse. Nous allons aller le voir ce soir et demander la grâce de Dieu sur lui. La première fois que nous sommes, c'est-à-dire vous et moi, allés prier pour lui, c'était les derniers moments du petit, puisque c'est une leucémie. Et quand je suis arrivé, il y avait dans son lit, cette chambre allait devenir une chambre mortuaire. La famille était venue de droite et de gauche pour ces heures de la fin. Et nous avons prié pour lui. L'enfant maintenant marche. Il marche dans sa maison. Il se réjouit. Il mange bien. Les globules blancs remontent. Et puis aussi, concernant les plaquettes, sont en train de remonter merveilleusement et on continue de bénir Dieu. Il avait une grosseur sur la tête qui a beaucoup, beaucoup diminué et il avait une grosseur aussi à l'œil. Et prêchant un mardi soir et priant pour le petit, une sœur m'a dit à l'issue de la réunion, « Écoutez, je suis passé hier soir pour voir l'enfant, puisqu'ils habitent dans le quartier, et il n'a plus de grosseur à l'œil. Dieu est celui qui fait du bien. Nous le remercions pour sa compassion, et aussi ce matin pour son amour, sa grâce. Il y a de la souffrance au milieu des hommes et des femmes. Et l'Église de Jésus-Christ est une Église qui est animée et qui doit être animée de l'amour de Dieu, de la compassion de Dieu envers ce monde qui souffre. Et nous souffrons avec celles et ceux qui souffrent. Et ce matin, nous sommes reconnaissants au Seigneur pour le fruit de la prédication où bien des cœurs ont été touchés. Cet après-midi, nous allons nous arrêter sur Marie de Magdala. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8e, partir du verset 1er. « Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village. C'est bien ? Non ? Évangile de Luc. Et j'ai dit quoi ? Ah, parce que j'ai une référence de Jean. Luc chapitre 8e, verset 1er. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Ne perdez pas votre page dans l'évangile de Marc, chapitre 16e, verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le verset 9e, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Évangile de Jean, chapitre 20e, verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Verset 11e. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent : Femme, pourquoi pleures-tu ? Elle leur répondit : Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit : Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit : Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. Jésus lui dit : Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu : Rabouni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit : Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses, que le nom du Seigneur soit glorifié. J'ai choisi, comme nous l'avons lu dans la parole de Dieu, Marie de Magdala. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans quelque temps, un film va sortir sur Marie de Magdala. Et pourquoi spécialement sur elle? Parce que quelqu'un a dit que Marie de Magdala avait été l'amante de Jésus. C'est drôle. Et quelqu'un d'autre a écrit, et il y a eu un film, disant que Jésus avait un péché contre nature dans sa vie parce que il a dit qu'il aimait Lazare. À partir de là, Dieu fit mourir Lazare pour détacher Lazare de Jésus. J'ai entendu un psychiatre qui était un prêtre charismatique, et il a passé la personne de Jésus comme un patient face à la psychiatrie. Il y a des gens qui ont vraiment du temps à perdre. Et on appelle ces évangiles l'évangile de Marie de Magdala, qui sont des évangiles où il y a plus d'une centaine d'évangiles qui sont considérés comme apocryphes. Et apocryphe veut dire caché, qui on n'a pas reconnu dans le canon des Écritures, c'est-à-dire comme votre Bible, la mienne, d'inspiration divine. Et ces livres apocryphes, qui sont au moins au nombre de plus d'une centaine, on remarque qu'ils ont été écrits par des gnostiques qui nient toute croyance sur la divinité, qui mettent un doute et cherchant à s'infiltrer au travers des siècles. Un jour, j'ai écouté un ancien ministre qui a dit « Nous ne voulons point une morale religieuse, mais nous voulons une morale républicaine. » C'est-à-dire que nous ne voulons point nous laisser impliquer notre vie et diriger notre vie par une morale religieuse, mais par notre propre morale. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu que les Juifs, les religieux, avaient renversé la parole de Dieu, avaient annulé la parole de Dieu pour établir la tradition des hommes. La tradition des hommes ne communique aucune vie spirituelle. Mais quand on regarde la tradition des hommes religieuse, philosophique religieuse, et qu'on voit la vie spirituelle de bien d'hommes et de femmes qui se disent chrétiennes, voilà pourquoi on renverse la parole de Dieu. Jésus est le Saint, il est le pur, il est le sans péché. S'il avait eu un père biologique comme Joseph, il aurait eu toutes les qualités et tous les défauts de l'être humain. Jésus a pu dire « Qui de vous me convaincra de péché ?» Personne a pu convaincre Jésus qu'il était un pécheur. Pourquoi ? Parce que c'est Dieu son Père. C'est Dieu qui, par l'Esprit de Dieu, a conçu dans le sein de Marie, la Vierge, le Fils de Dieu. Il est le Saint, il est le pur, il est le sans péché, il est le parfait. Voilà pourquoi nous pouvons nous approcher de lui. Laissons tous ces livres apocryphes cachés et restons loin de ces livres qui ne nous instruiront point, mais qui chercheront à salir notre pensée, et que Dieu vous garde et nous garde de toutes ces choses. Et puis, aussi, ce qui est important, c'est qu'en réalité, ces livres, dits évangiles, dits les évangiles apocryphes et autres, puisque l'évangile, saint Thomas, l'évangile et d'autres, chacun leur titre, on remarque que toujours, c'est pour abaisser le niveau de la moralité. C'est pour permettre à l'homme d'éteindre sa conscience et de vivre comme bon lui semble. Bien-aimé, dans la foi, ce qui est important, c'est que nous devons confesser que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est le Fils de l'homme et qu'il est le Sauveur de tous les chrétiens, qu'il est le pur et le saint. Le Seigneur nous montre qu'il allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Ce que Jésus prêchait, c'était l'évangile de Dieu. Et nous réjouissons de ce que Jésus a dit, croyez à l'évangile, croyez à la bonne nouvelle. C'est donc une bonne nouvelle. Et cet après-midi, chacun d'entre nous doit non seulement croire à la bonne nouvelle de Dieu, à la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais non seulement y croire, mais la recevoir, la vivre, et qu'elle soit pour nous la direction suprême de notre vie. La Bible dit que les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dit de Magdala. Pourquoi Magdala? Parce que c'était une ville et Marie était de cette ville, comme on pouvait dire Marie de Béthanie. C'était une ville, Marie. Marie avait ses problèmes. Marie avait été liée par des puissances ténébreuses. Peu importe le nom, mais la Bible nous dit sept. Et ce qui est important, c'est que la compassion de Dieu se soit manifestée sur cette femme et qu'elle fût délivrée par l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. La grâce divine, elle sauve qui elle veut. Dieu ne fait exception de personne. Des fois, dans notre pensée, il y a une classification d'hommes et de femmes qui doivent être sauvés et que d'autres ne doivent pas l'être. Mais dans le cœur de Dieu, tous les hommes doivent être sauvés. Tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, tous les jeunes gens et les jeunes filles doivent être sauvés. C'est pour ça que le Christ est venu sur la terre des hommes. Si je regarde de suite après Marie, Jeanne, femme de Suja, intendant d'Hérode. Je regardais intendant d'Hérode. Mais quelle misérable famille que celle des Hérodes. Le père a voulu assassiner l'enfant Jésus dès sa naissance. Il a été aussi l'assassin de Jean-Baptiste et responsable aussi de la mort de Jésus, n'ayant rien fait pour le délivrer. La grâce de Dieu, elle sauve qui elle veut. Et elle appelle au service qui elle veut. Pourquoi ? Parce que toutes ces femmes l'assistaient de leur bien. Ce qui est formidable, c'est après avoir vécu en dehors de Dieu et de Jésus-Christ, c'est de pouvoir servir Dieu, servir Jésus-Christ. La grâce de Dieu, elle nous émerveille. Cette femme qui a été délivrée, eh bien, sa vie a pris un nouveau sens, nouvelle orientation, quelque chose d'extraordinaire. Et la Bible nous montre que lorsque Jésus est mort sur la croix, descendu de la croix, placé dans le tombeau, pierre scellée avec la garde, pour que personne ne vienne voler son corps, les femmes sont venues pour embaumer son corps. Mais ces femmes venant se poser une question, qui nous roulera la pierre ? C'était une grosse pierre, c'était un obstacle. Et cette question, qui retirera l'obstacle ? Qui nous roulera la pierre ? De la même manière, en tant qu'humain, nous avons et nous pouvons avoir nos tombeaux, qui sont nos difficultés, avec les pierres, avec toutes sortes d'obstacles, et nous nous disons, qui nous roulera la pierre ? Qui viendra à notre aide pour le secours, en réalité, de mon problème personnel ? Qui viendra consoler mon cœur ? Qui viendra me délivrer de mes chaînes ? Qui fera toutes ces choses ? Et c'est tellement embrouillé dans notre tête, tellement avec notre cœur souffrant, que nous voyons toujours et chaque jour la pierre en réalité grossir. Elle ne grossit pas, mais l'obstacle, nous le voyons comme grandissant. Mais Dieu soit béni, parce que de son ciel de gloire, rien ne lui est impossible. C'est là notre espoir, c'est de lui faire confiance, rien n'est impossible. À notre Dieu, tout est possible. Tout est possible. Dans l'évangile de Jean, la parole de Dieu nous révèle que c'est elle, Marie de Magdala, et c'est précisé, pour pas que l'on ait de confusion, elle est venue au tombeau, et cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Elle pleurait. Nous sommes dans un monde où les gens pleurent. Ça se voit au cours d'une conversation avec quelqu'un. Il arrive parfois que l'on voit la souffrance au travers de ses yeux qui deviennent larmoyants. Ça parle sans poser de questions, une souffrance, quelque chose qui se manifestait. Et nous sommes dans un monde qui pleure. Nous sommes dans un monde qui pleure, qui est dans la souffrance, qui est là face à toute cette tempête de famine, de guerre, de choses désastreuses. Le cœur, il pleure. Et Marie, comme elle pleurait. Elle pleurait un être cher. Et nous avons cette grande communion spirituelle, fraternelle, où nous avons des liens qui nous unissent. Et dès lors que nous apprenons une mauvaise nouvelle, nous décrochons le téléphone, nous envoyons un mail. C'est tellement rapide. Cette femme pleurait. Et elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. L'autre aux pieds. Deux anges. Formidable. Quel spectacle qui a marqué. Et nous avons aussi été marqués par notre vie, par le surnaturel. Le surnaturel de Dieu nous a marqués. Nous avons été bouleversés par ce surnaturel. Et ces anges vont lui dire, « Femme, pourquoi pleures-tu? Pourquoi pleures-tu? » Mais tu devrais le savoir. Mais en réalité, les anges savent, mais ils veulent savoir. Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. Je ne sais où ils l'ont mis. Mon Seigneur, celui que j'aime, celui qui m'a fait tant de bien, celui qui m'a délivré, celui qui m'a pardonné. Elle avait un passé lourd. Et la parole de Dieu nous révèle qu'elle a été délivrée. Elle a été transformée. C'est formidable lorsque l'on est délivré. Est-ce que vous avez connu la souffrance dans votre vie? Et est-ce que vous avez été délivré? Et quand vous avez été délivré, est-ce que vous avez cherché à vous pincer? C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est une vérité ou c'est faux? Oh, pourvu que ça ne revienne pas! Oh, pourvu que ça ne revienne pas! Est-ce que, en réalité, on a vécu le surnaturel? Je vais vous confier quelque chose. Vous le direz à personne, hein? Mais comme c'est enregistré, tous ceux qui vont écouter vont le savoir. 1985, j'ai fait une hémiplégie et j'ai eu tout le côté droit paralysé. Je passe sur les détails et j'ai fait cette prière à Dieu. Prends-moi, je ne veux point avoir des séquelles, je ne veux point être comme avoir des bilans mentales ou autres, prends-moi. Et vers 2 heures du matin, j'ai été réveillé par une voix très forte. Je te guéris. Et quand je me suis réveillé, j'étais tout le côté droit paralysé. Ça fait drôle quand vous vous réveillez paralysé. Non ? Du côté droit. Que tout le côté, et pendant 1 heure et demie, je suis resté dans le lit, et à 4 heures, j'ai pu me lever, oui, vers 4 heures, et il y avait un recueil de chants, et j'ai chanté à 4 heures, j'ai un sauveur puissant pour me guérir. Les chanter sur la bonne note, j'en suis sûr. J'ai un sauveur puissant pour me guérir. Et bien sûr, ça se voyait quand j'avais la jambe droite et mon bras qui est un petit peu mort par moment à cause de la fatigue. Mais quand je suis allé chez des spécialistes, je leur ai dit, j'ai des maux de tête terribles, nuit et jour. Ils m'ont dit, ce sont des séquelles. Et on ne peut rien faire. Nuit et jour devant Dieu. J'ai eu ces maux de tête. Terribles. Terribles. Nuit et jour, des maux de tête. Et si je me couchais, je rentrais ou autre le samedi soir très tard, et je ne pouvais pas m'endormir tout de suite, il fallait que je reste 2 à 3 heures pour tout ça redevienne normal dans ma tête, mais que ces mots, pendant 30 ans, parfois quand je cherchais mes mots, vous rigoliez. Mais vous ne saviez pas pourquoi vous rigoliez. C'est-à-dire, vous ne saviez pas ce que j'avais. Et là, depuis plusieurs mois, peut-être un an et demi, eh bien, Dieu m'a fait grâce. J'ai été guéri. Je ne souffre plus de la tête. Et médicalement, ils appellent ça « votre tête est encerclée ». Et moi, ensuite, je dis ma tête, elle est désencerclée. 30 ans, c'est long. 30 ans, c'est long. 30 ans, c'est long. C'est terrible. Quand vous avez une tête qui souffre, où la douleur ne se donne aucun repos. Mais il y a des douleurs dans le cœur. Ou comme Job pouvait dire, la douleur ne se donne aucun repos. Mais un jour, Dieu a su faire grâce. Dieu sait toujours faire grâce. Il sait toujours nous bénir. Femme, pourquoi pleures-tu? Et en disant cela, je ne sais pas où ils ont mis son corps, mais elle vit Jésus debout. Et elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle ne savait pas. Vous savez, nos pleurs nous font faire des choses déraisonnables, nous font dire des choses déraisonnables, et notre vision oculaire devient très mauvaise. Très mauvaise. on ne voit même pas la personne qui est devant nous. Elle pense que c'est le jardinier. C'est elle qui l'est. Parce que Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ?» Et il ajoute, par rapport aux anges, « Qui cherches-tu ? Qui cherches-tu ?» Et cet après-midi, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Homme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Enfant, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? Seigneur, Seigneur, oh, c'est pas le Seigneur, elle pense que c'est le jardinier. Un jour, nous étions en Colombie, et puis nous étions là, dans l'endroit où nous avions pris quelques jours de vacances avec nos enfants. Et nous, moment du repas, il n'y avait pas de chaise, je suis allé en chercher une et j'entends une dame qui me dit « Seigneur, Seigneur !» Jamais vous m'avez appelé « Seigneur, Seigneur !» Jamais vous m'avez dit « Seigneur, Seigneur !» Parce qu'en espagnol, c'est « Seigneur, Seigneur !» Je ne sais pas si je dis bien ça dans l'action, dans le langage de la Colombie. « Seigneur, Seigneur !» On me dit, un Colombien me dit que c'est comme cela. « Seigneur, Seigneur !» C'est pas « Seigneur Jésus !» C'est « Monsieur !» C'est « Monsieur !» On pourrait dire « Maître !» Si c'est toi qui l'emportais, dis-le-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Ce qui veut dire que parfois, dans les pleurs, dans la souffrance, nous faisons des choses déraisonnables. Comme si on pouvait prendre un mort. C'est déjà un poids terrible, le prendre. Et même si elle l'avait pris, trouvé. Mais qu'elle va-t-elle faire avec un poids? Que va-t-elle faire avec cette personne? Seigneur, si c'est toi qui l'en prendrais, dis-le-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Et elle se retourna, lui dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire « Mon maître, quelque chose s'est passé en elle. » Lorsque Jésus lui dit plus « Femme », mais lui dit « Marie », quelque chose se produit. Être appelé par Jésus, toi qui connais le cœur de chaque être humain, toi qui connais les cœurs de plus de 7 milliards d'individus, de personnes, toi qui connais depuis la création d'Adam et de Ève, les milliards et les milliards, tu connais la vie de chacun. N'est-ce pas là quelque chose de merveilleux, Marie? Et quand il nous appelle par notre prénom, ça marque notre vie. Quand Dieu, dans le buisson ardent, Moïse, Moïse, toute sa vie est marquée par ce surnaturel. Et si le Seigneur ne vous dit pas, Madame, Mademoiselle, jeune homme, mais il vous appelle par votre propre prénom. Ce n'est pas un numéro. Quand vous allez dans des endroits, on vous demande quel est votre numéro.
marche par un numéro. Mais quand Jésus lui dit « Marie, il y a quelque chose qui va bouger », tout de suite, c'est Rabouni. Tu es mon maître. Tu es mon maître. Tu es mon Seigneur. Et c'est cela que Jésus, ce soir, veut établir. Il veut vous appeler par votre prénom. Parce que peut-être qu'intérieurement, vous vous dites, mais je n'ai plus d'identité. Je n'ai plus rien. Je suis détruit, détruite. Je me souviens, quand nous avions SOS Jeunes rue Colmar, nous distribuions environ 10 000 petits déjeuners en 8-10 mois. Et nous avions tous ces garçons, tous ces filles. Rappel d'une jeune fille qui avait 14 ans. On peut descendre vite. Et il y avait un homme, il me disait, quelquefois quand j'arrivais, quand il arrivait, est-ce que je peux mettre ma plure là? Et je l'appelais par son nom, et je dis, j'ai pas bien compris, monsieur. Mais il dit, oui, je peux mettre ma plure. Non, j'ai pas bien compris, monsieur. Je peux mettre ma veste? Oui, monsieur, vous pouvez mettre votre veste. Quand on n'a plus d'identité, quelqu'un me disait que jeudi soir, quelqu'un est sans abri à l'heure actuelle, bac plus 5, je crois, ou bac plus 7. On peut descendre vite. On peut être détruit intérieurement. Il faut que Jésus ait ce point. Je disais toujours au personnel, ne tutoyez aucun garçon, aucune fille. Dites-leur vous. Ils ont une identité. Ils ont quelque chose encore. Mais pour eux, ils n'ont plus d'identité. Carte d'identité ou plus en possession, pour eux, ça ne les dérange pas. Ils n'ont plus rien. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout perdu. Mais l'identité est quelque chose d'important. Vous êtes et vous, nous sommes une créature de Dieu. Nous portons l'image, certes d'Adam, mais l'image aussi de Dieu. Nous sommes une créature de Dieu. Même le possédé de Gadara, qui était dans l'esclavage, il avait encore l'image de Dieu en lui. Et chaque être humain a l'image de Dieu en lui. Bien-aimé dans la foi, Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Et Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Je monte vers mon Père. Je vais vers votre Dieu, mon Dieu. Voudriez-vous ce soir pouvoir dire Maître, Seigneur, Fils de Dieu, Sauveur, tu m'aimes, tu me pardonnes, tu me guéris, tu cicatrises les plaies de mon cœur. Je vais en terminer en me regardant dans le miroir. Je suis ceci ou cela. Détruisez pas votre miroir. Mais vous êtes une créature de Dieu. Vous avez votre personnalité. Et si vous avez sombré dans le désespoir, le message de Dieu, c'est un message d'espérance. Parce que la Bible nous dit que c'est le Dieu de l'espérance. C'est le Dieu de la consolation. C'est le Dieu de la bénédiction. Et vous qui arrivez avec un passé, un présent, vous pouvez repartir avec un avenir. Quelque chose de nouveau venant du ciel de gloire, puissiez-vous venir, non point au tombeau, mais là où le Seigneur est sorti. Puissiez-vous venir à la croix du calvaire, au Golgotha, où il est mort, il nous a réconciliés avec le Père. Il nous a délivrés, il nous a affranchis. Nous sommes libres maintenant, libres par Jésus-Christ, de vivre une nouvelle vie, non point libres de faire ce que je veux, non point libres de faire ma propre moralité, mais de vivre avec les enseignements du Seigneur. Nous avons voulu vivre notre propre moralité. Mais regardez, quand on regarde, disait Dieu, par la bouche du prophète Esaïe, regarde, détourne-toi. Comme moi, vous avez fait ces choses. Et moi, comme vous, nous sommes faits, nous étions sur la plage et nous avons marché. Nous marchions tout droit et nous pensions que nous marchions droitement. Mais comme le sable était mouillé, eh bien, on laissait notre marque. On a pensé qu'on marchait tout droit. Puis un détour, oh, on a dit, c'est pas très droit. Et la vague est venue et a effacé nos pas qui n'étaient pas très droits. Et nos pas, on a cru que c'était droit. C'était le chemin de tout le monde. Mais au bout, on s'est réalisé que ce chemin, c'était la mort. Mais Dieu, dans son amour, il efface notre vie. Il nous permet de vivre une nouvelle vie. Une vie glorieuse. Une vie merveilleuse. La vie est belle. Elle vaut la peine d'être vécue. Que Dieu vous bénisse. Amen. On prie le Seigneur. Hallelujah. 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 Règne en moi. Oh, béni soit le Père. Gloire à l'agneau de Dieu. Nous nous approchons de toi, notre Père, et nous te remercions de tout notre cœur. Fais du bien, Seigneur, aux âmes. Fais-leur du bien, Seigneur. Visite-les par la puissance de ton amour, de ta fidélité, Seigneur. À ton nom soit la gloire, la victoire, la louange, au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen.